L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM en pleine nature au cœur du parc naturel régional d'Armorique, comme la radio, LIFE. Alors, on dirait de l'anglais, mais en fait, c'est l'acronyme de l'instrument financier pour l'environnement. Ce sont des crédits européens pour restaurer ou pour préserver des milieux naturels qui en ont bien besoin. Le parc d'Armorique participe déjà à l'un de ces programmes, le LIFE MARA, comme Marine Habitat, un projet européen de 8 ans piloté à Brest par l'Office français de la biodiversité. Il réunit des scientifiques et des gestionnaires de sites Natura 2000 et il vise à mieux connaître et à mieux gérer les habitats marins dans des zones Natura 2000. Mais voici que le parc devient à son tour le pilote d'un nouveau programme LIFE. Cette fois, il s'intitule Landes d'Armorique, avec un chargé de mission tout dédié à ce programme et qui est avec nous aujourd'hui, c'est Yves-Marie Le Guen. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on pourrait déjà avoir un petit panorama de ces landes et tourbières du parc d'Armorique, parce que c'est assez vaste, je crois.
Oui, tout à fait. C'est vrai que pour commencer, on peut effectivement citer quelques chiffres qui vont bien illustrer ce vaste territoire. On peut déjà dire que les landes et tourbières représentent environ 15% de la superficie totale du parc naturel régional d'Armorique. Donc c'est un territoire assez vaste. Et sur trois sites emblématiques du parc, que sont le Ménézôme, le Ménézmeur et les Monts d'Arrée, on va retrouver en fait le plus vaste ensemble de landes atlantiques de France et le plus grand complexe de tourbières de Bretagne. Cela implique donc de gros enjeux finalement en termes de protection de ces habitats qui sont remarquables et de la biodiversité qu'on va y trouver.
Ah oui, on pourrait croire qu'il y en a pratiquement autant partout le long de la côte parce qu'on voit beaucoup de landes notamment, mais en fait c'est une illusion, c'est ça ?
Alors, c'est vrai que ce programme LIFE concerne vraiment des landes très humides et des tourbières très humides qu'on va plutôt retrouver dans l'intérieur des terres plutôt que sur la côte. On est sur des milieux différents qu'on peut retrouver sur les falaises, sur la presqu'île de Crozon. On est vraiment sur des milieux assez différent là pour le coup.
Ah oui, ça vaut peut-être le coup. C'est quoi la différence lande sèche, lande humide en gros
Alors on est vraiment sur la quantité d'eau qui est présente dans ces milieux. Donc sur les milieux plus terrestres qui sont très humides, on va avoir une végétation vraiment très particulière et vraiment différente des landes qu'on va retrouver sur des milieux plus secs en bord de mer.
Et celles-là, ces landes humides, sont plus rares que les landes sèches?
Oui, tout à fait. Plus rares et plus fragiles aussi, oui.
Et une tourbière, qu'est-ce que c'est ? Il faudrait rappeler aussi ce que c'est qu'une tourbière, comment elle se forme.
Alors, une tourbière, tout simplement, en fait, elle va se former en accumulant de la matière organique. Ça se fait sur plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. C'est un processus très, très lent. Et on peut estimer que donc il y a environ 5000 ans dans nos monts d'Arrée, les plantes se sont dégradées lentement. Et
c'était quel genre de plantes enfin...
Alors on retrouve on va y revenir après, je pense, mais on retrouve notamment des mousses très typiques de ces landes qu'on appelle sphaignes notamment, qui ont une capacité de rétention en eau très importante. Donc c'est pour ça qu'elles sont liées à ces milieux très humides. Et puis du coup, en se dégradant sur ces plusieurs millénaires, elles vont s'accumuler dans le sol en fait. Et c'est cette matière organique qui se dégrade et qui s'accumule dans le sol qui forme la couche de tourbe très noire qu'on trouve en creusant en fait dans le sol de ces landes et tourbières.
Donc c'est très intriqué, une lande et une tourbière, c'est-à-dire que c'est pas séparé, c'est pas une zone de tourbière, une zone de lande, c'est ça en fait?
Oui, tout à fait, c'est des milieux qu'on va retrouver de manière assez cohérente sur ces vastes périmètres.
Donc ce sont des zones, donc on l'a cité rapidement, il y avait le Ménézôme, le Ménézmeur et les landes de Kragou-Vergam, c'est ça?
C'est ça, au niveau de la crête des Monts d'Arrée, c'est ça, ce qui représente environ 10 000 hectares, donc c'est un territoire vraiment très important. Et donc ces landes et tourbières ont un intérêt écologique fort hein, au niveau national et au niveau européen, puisqu'elles sont considérées comme habitats dits d'intérêt communautaire à l'échelle européenne. Donc en fait, ça signifie tout simplement que ces habitats ont une très forte valeur patrimoniale au niveau de l'Europe et qu'il faut donc protéger. Et ces sites sont généralement classés Natura 2000.
Mmh. Voilà. Et là, c'est le cas. Enfin...
Les trois sites qu'on a évoqués sont tous classés Natura 2000. Et en plus d'être dits habitats d'intérêt communautaire, ils sont également habitats prioritaires. du fait de leur disparition dans leurs aires de répartition géographique. Donc il y a vraiment, là encore, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a un gros enjeu de préservation de ces milieux. Et sans action forte et concrète pour les protéger, il est fort probable qu'elles disparaissent à moyen terme de nos territoires.
C'est quoi moyen terme ? Ça serait quoi ? 20 ans, 30 ans ?
Oui, c'est ça. Oui. On n'est pas sur un pas de temps court d'une année, on est plutôt sur plusieurs décennies. Oui.
Ouais. Donc il y a quand même urgence, même si ça paraît loin, plusieurs décennies, n'est-ce pas ?
Oui.
Et en plus, c'est une réserve. Enfin, il y a une réserve parmi les 10 000 hectares, c'est ça ?
Alors, on peut même dire qu'il y a deux réserves. On a une réserve naturelle régionale qui se trouve tout à l'est de la crête des Monts d'Arrée, au niveau du Cragou, qui est gérée par l'association Bretagne Vivante. Et une autre réserve qui est nationale, au niveau du Vénèque. Donc réserve nationale il y a un projet d'ailleurs qui est en cours pour étendre son périmètre et passer à une superficie beaucoup plus importante.
Celle du Vénèque, c'est à côté du lac de Brennilis, c'est ça ?
Tout à fait, oui, c'est ça. Oui.
Bon, donc le programme va on en a parlé un peu, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu sur ces intérêts écologiques de ces habitats. Qu'est-ce que ça nous rend comme service ? On appelle ça des services écosystémiques. Qu'est-ce qu'elles font pour nous, ces landes et ces tourbières ? Pourquoi sont-elles si précieuses ?
Alors c'est vrai qu'on parle de services écosystémiques, donc c'est vrai qu'elles rendent plusieurs services à l'homme. Alors on peut citer tout simplement les services liés à l'eau, alors à la fois à la qualité de l'eau, puisque c'est landes humides qui abritent une végétation très, très spécifique, comme on l'a dit. On va avoir un pouvoir de filtration en fait de tous les nutriments ou les polluants qui peuvent passer dans ces milieux. Donc elles vont relarguer aux rivières une eau qui est beaucoup plus propre et pure. En termes de quantité d'eau également, puisque on parlait des sphaignes tout à l'heure, il faut savoir en fait que ces sphaignes, donc qui sont des mousses, hein, comme on l'expliquait, elles sont capables de stocker jusqu'à 30 fois leur poids sec en eau. Donc elles agissent en fait comme une éponge, ce qui fait que l'été, quand il y a un peu moins d'eau, elles ont accumulé l'eau en période hivernale, et puis elles peuvent relarguer doucement l'eau aux rivières en été, lorsqu'il y a beaucoup moins d'eau dans les rivières.
Et accessoirement, l'hiver, ça peut être un outil de prévention d'inondation.
Enfin... Ça peut aussi, même si dans les Monts d'Arrée, bon, on n'a pas une pression urbaine très forte, mais en tout cas, de manière plus générale, les zones humides que sont nos landes et nos tourbières, les zones humides participent de manière globale, effectivement, comme vous le dites, à réguler les inondations dans les zones qui sont plus urbanisées, peut-être.
Alors, donc, d'accord, l'eau, ok.
Alors, si on continue, du coup, il y a aussi un service qui peut être lié au paysage, puisque ces landes et tourbières proposent des paysages emblématiques aux habitants qui vivent et qui parcourent ces milieux toute l'année. Au niveau des loisirs également, je pense à la randonnée, au vélo. On a beaucoup de personnes qui fréquentent régulièrement ces espaces naturels.
Il y a déjà d'ailleurs des aménagements intéressants comme les caillebotis, qui permettent vraiment de s'immerger dans ces milieux.
Et qui évitent justement que les promeneurs piétinent cette végétation très fragile ou tout simplement ne s'enfoncent avec leurs bottes dans la boue.
C'est vrai.
Voilà. Et en dernier service qu'on peut citer, et c'est pas le moins important, loin s'en faut, puisque ces landes et tourbières ont également un rôle important dans tout ce qui va concerner la lutte face au changement climatique. Donc c'est très d'actualité en ce moment, puisqu'il faut savoir que ces milieux qui représentent finalement qu'à peine 3% des surfaces émergées au niveau mondial, mais elles ont la capacité d'emmagasiner deux fois plus de carbone que les forêts entières au niveau de la surface de la Terre. Et ces forêts représentent à elles seules environ 75% de la surface. Donc, alors, elles ont un réel pouvoir de stockage du carbone.
Comment ça se fait qu'elles stockent si bien le carbone ?
Après, je ne maîtrise pas tous ces paramètres très, très pointus, mais c'est essentiellement lié au fait que, le fait que ces milieux soient engorgés en eau de manière permanente toute l'année. Ça limite, voire supprime complètement l'activité microbienne qui permet de dégrader ces matières organiques. Et donc, en fait, le carbone reste séquestré, sans bouger, comme ça. Tant qu'il y a de l'eau, le carbone ne bouge pas, il reste séquestré dans le sous-sol.
Et seulement 3% dans le monde. Et encore, les landes et tourbières qui existent ailleurs dans le monde, elles sont peut-être très différentes des nôtres, non ?
Oui, elles sont très différentes des nôtres. Aujourd'hui, en fait, les landes qu'on retrouve dans les Monts d'Arrée, à l'échelle européenne, on les retrouve qu'en Espagne, donc principalement au niveau de la Galice et de l'Asturie. Et en Bretagne, donc sur les sites qu'on a évoqués, donc Centre-Bretagne, Monts d'Arrée.
Puits de carbone, filtre à eau. Et puis, c'est un habitat pour des espèces animales, végétales emblématiques. Alors, est-ce qu'on pourrait en citer quelques-unes ?
Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, c'est un habitat qui est très, très important pour nombre d'espèces, qu'elles soient végétales ou animales. Donc, on a déjà cité la sphaigne Je vais peut-être passer maintenant aux espèces animales.
Donc sphène, c'est une mousse, hein, c'est comme ça qu'on
a... Oui, voilà. La sphène, oui, si vous voulez, c'est une mousse qui vit au ras du sol, hein, dans les espaces de végétation très, très rase. Elle a une couleur un peu brune rougeâtre, et elle est tout le temps humide. Hein. Si vous la prenez, vous avez vraiment une petite éponge dans la main.
Elle est d'ailleurs utilisée, je crois, dans certaines protections féminines. En tout cas, c'est pendant un temps, elle était évoquée.
Ah, alors ça, je ne pourrais pas vous en dire plus.
C'était il y a longtemps.
Et vous aviez évoqué effectivement les autres espèces plutôt animales qui vivent dans ces milieux. C'est vrai qu'on peut notamment citer les espèces d'oiseaux qui sont présentes dans ces milieux assez remarquables. On peut citer notamment les deux busards, busard cendré et busard Saint-Martin, ou encore le courlis cendré.
Alors le busard, c'est un rapace ?
C'est un rapace, oui, tout à fait.
Et le courlis, c'est plutôt quoi, un échassier, non ?
C'est un limicole. Donc, voilà,
c'est ça.
Ce sont des oiseaux en fait qui vivent dans ces milieux, qui ont besoin de ces milieux avec une végétation encore une fois assez assez rase pour à la fois nicher, donc se reproduire, mais aussi chasser. Donc le busard va pouvoir prélever des petits rongeurs dans ces landes rases.
Et ils y habitent en permanence. Enfin, c'est pas juste une étape de migration.
Ça dépend des espèces. Ça peut être un habitat transitoire par rapport à leur cycle de vie, mais d'autres espèces, on va les retrouver toute l'année sur ces landes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, on va voir le caractère assez exceptionnel de ces landes des tourbières d'Armorique, puisque les trois espèces qu'on a citées en Bretagne, on ne les retrouve que sur les monts d'Arrée. Voilà. Et pour vous donner quelques chiffres au niveau du courlis cendré, qui est l'espèce un peu emblématique de notre programme LIFE. En fait, le courlis cendré, les ornithologues, on en comptait environ 100 couples dans les années 70. Et aujourd'hui, ils sont estimés à peine une vingtaine de couples. Donc on voit vraiment l'urgence d'agir sur cette espèce. Parce qu'encore une fois, hein, si on fait rien, on peut vraiment penser que d'ici quelques dizaines d'années à peine, le courlis aura peut-être disparu de nos landes.
Alors ça, c'est les oiseaux. J'imagine qu'il y a des petits mammifères ou même peut-être des insectes, enfin, ou des arthropodes.
Oui, bien sûr. On retrouve tout un cortège d'espèces. On va retrouver la loutre, par exemple, hein, qui est une espèce emblématique aussi de nos landes et tourbières en Bretagne. On peut retrouver effectivement tout un cortège d'amphibiens qui vivent dans ces milieux aussi toute l'année ou une partie de l'année selon leur mode de vie. On peut également citer une espèce qui est moins connue, mais qui est tout aussi importante, qui est la moule perlière d'eau douce. Donc, qui vit sur nos petits cours d'eau granitiques sur les têtes de bassins versants au niveau des monts d'Arrée, justement. Donc, c'est là que les cours d'eau prennent leur source. Et donc, cette espèce est là aussi très importante pour le fonctionnement global de l'écosystème.
Mais si les auditrices et auditeurs veulent en savoir plus, on a déjà réalisé une émission sur la moule perlière, la mulette perlière aussi, c'est son nom. Sur les plantes, ouais, à part la sphène, il y avait d'autres plantes à signaler
Oui, alors des plantes qui sont facilement reconnaissables pour le grand public. Hein. Moi, c'est toutes les bruyères qu'on va retrouver dans nos landes, hein, avec cette couleur caractéristique violette qui nous fait de très beaux paysages au moment de la floraison, et les ajoncs qui rajoutent une touche de jaune dans nos paysages. Voilà.
Et puis peut-être les herbes, genre tour de Molini, c'est ça les grosses herbes.
Oui. Ça, c'est vrai que c'est cet effet paille un peu qu'on retrouve en hiver. Donc c'est la Molini qui fane en fait tout simplement l'hiver. Donc on la voit beaucoup plus que les autres espèces en hiver, parce qu'elle prend, elle est bien visible. Et sinon oui, ça fait des mottes qu'on appelle des mottes vertes au printemps. Donc c'est une espèce aussi caractéristique de ces milieux plutôt humides. Ouais.
Il y a très peu d'arbres, évidemment, forcément, puisque c'est une végétation rase, donc un milieu ouvert. Il y a quand même quelques bouleaux, je crois, non ?
Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que naturellement, on va retrouver des saules, des aulnes qui sont vraiment friands de ces milieux humides pour se développer. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'une lande aura naturellement tendance à se combler, à se boucher, justement par le développement de ces arbres qui vont venir fermer le milieu. Et pour qu'une lande reste ouverte avec une végétation rase, comme on l'a expliqué, qui sert à beaucoup d'animaux dans l'écosystème, il faut que cette lande soit entretenue, gérée, utilisée en fait par l'homme.
Alors on va voir ça justement. Et d'ailleurs, c'est aussi, ça fait partie des intérêts de ces milieux, landes et tourbières du parc d'Armorique, c'est qu'elles ont une valeur humaine, enfin socioculturelle, historique aussi. C'est-à-dire que c'était des milieux qui ont été vraiment utilisés par les humains.
Hein. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on avait une gestion ancestrale de ces milieux par les agriculteurs, les paysans, qui s'en servaient pour leurs bêtes en fait, hein, litière ou pâture. Donc c'est vrai que c'était des milieux qui étaient régulièrement utilisés. Et avec la déprise agricole qui s'observe depuis quelques décennies, ben voilà, comme je vous le disais, on observe sur certains sites des landes qui disparaissent, qui se comblent par les arbres en fait.
Et les tourbières étaient utilisées aussi également comme source énergétique, c'est ça, la tourbe.
Tout à fait. On pouvait effectivement, dans certaines régions très rurales à l'époque, où les habitants venaient extraire des mottes de tourbe qu'ils faisaient sécher, donc pour évaporer toute l'eau présente dans la tourbe, et qui était utilisée ensuite comme combustible pour chauffer la maison.
Ouais. C'était le cas dans les monts d'Arrée ?
Tout à fait, oui.
Ouais, d'accord. Ouais. Jusqu'à quelle période à peu près ? Enfin, c'est quoi ? Fin du 19e ?
C'est possible que même entre les deux guerres, il y avait encore ce genre de ce mode de chauffage, ou même pour cuire les aliments aussi. Je pense que ça a pu perdurer jusqu'à l'entre-deux-guerres. Oui.
Alors, ces habitats, on l'a dit, 3% sur l'ensemble de la surface de la Terre, bon, c'est vraiment très peu. Je ne sais pas combien il y en a eu. Est-ce qu'on sait combien il y en a eu au maximum ?
Ça, je pourrais pas vous dire.
Quelle est la perte de surface ? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qui menace, en tout cas, ces habitats ?
Alors, c'est vrai que ces habitats sont très menacés, comme toutes les zones humides. Hein, encore une fois, les zones humides, de manière globale, sont menacées depuis plusieurs décennies. On voit qu'en 50 ans, on a détruit une quantité juste incroyable de ces zones humides. Et au niveau de nos landes et tourbières, donc on a plusieurs paramètres qui vont impacter ces écosystèmes. Alors, on peut en citer quelques-uns. Hein. Au premier rang de ces paramètres, on va retrouver les plantations de résineux qui ont été réalisées dans les années après-guerre, justement dans les années 50-60. Hein. C'était à l'époque on voulait relancer un petit peu l'économie sur ces territoires très ruraux. Donc, on a incité avec des politiques nationales à planter ces milieux pour développer la filière bois.
C'était pour la construction surtout, non ?
Oui, surtout. Ouais. Ouais.
Donc, puis ça pousse vite. Hein.
Ça pousse vite, voilà. Ah, ça pousse très vite, vu qu'on est sur des milieux humides, donc les arbres poussent très vite.
Mais le problème, c'est que les résineux, ça tue un peu tout le reste. Quoi. Enfin...
Et c'est surtout lié au fait aussi que c'est... Pour permettre la culture de ces résineux, les parcelles généralement ont été drainées avant. Donc justement, les drains ont permis d'évacuer toute l'eau et d'assainir les parcelles.
Donc c'est des fossés, c'est ça ?
C'est des fossés, ouais, c'est ça. C'est d'accord. Des fossés. Et donc, du coup, ces drains ont complètement supprimé le caractère humide de nos landes et nos tourbières. On a aussi on l'a évoqué juste avant, hein, l'abandon des pratiques de gestion ancestrale de ces landes au niveau des agriculteurs. Donc comme on disait, on a un comblement qui se fait aujourd'hui au niveau de ces landes avec l'envahissement des saules, des aulnes et autres arbres. On a également des problèmes qui sont liés à la surfréquentation du public sur certains sites.
Ménézum plutôt alors.
Le sommet du Ménézum effectivement, oui, qui est très très connu, très fréquenté. On a certains sites aussi hein, sur les crêtes des Monts d'Arrée, là entre certains rocs qui sont très fréquentés par le public. On peut avoir des sentiers qui sont en doublon maintenant parce que les gens créent même parfois des sentiers afin de passer à côté. Donc ça peut avoir des impacts sur la végétation en termes de piétinement ou on peut déranger les oiseaux aussi. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte. Et puis, comme on l'a évoqué, le changement climatique, là encore, hein, qui est déjà à l'œuvre et qui commence déjà à modifier le fonctionnement très, très fragile hein, de ces écosystèmes.
C'est quoi, ça les assécher peut-être ou ça serait quoi l'impact mesurable pour l'instant ?
Ça peut, oui, on peut avoir des changements au niveau de la pluviométrie, comme vous dites, effectivement, ça peut être quantifiable. On a aussi une modification des aires de répartition de la végétation. Donc, on va peut-être retrouver des végétations qui étaient plutôt présentes dans le sud de la France aujourd'hui, enfin, avant, je veux dire, et qui remontent aujourd'hui vers la Bretagne, et ces changements de végétation peuvent modifier aussi le fonctionnement de l'écosystème qui n'était pas prêt à accueillir ces nouvelles végétations.
D'accord. Des invasives éventuellement, enfin d'autres menaces, ouais.
Des espèces invasives, qu'elles soient animales ou végétales.
Ah oui, par exemple.
Et qui là encore vont prendre la place des espèces qui étaient endémiques. Par exemple. On peut citer le ragondin qui est bien connu, hein, le ragondin qui est présent, bon, qui est présent partout en France, mais qu'on retrouve aussi dans les monts d'Arrée, qui va avoir des impacts au niveau de la tenue de nos berges, qui va avec ses terriers, qui va dégrader les berges, qui vont s'effondrer dans les ruisseaux. On va avoir des espèces végétales aussi, comme la renouée du Japon, qui va là aussi se développer en grand fourré et puis prendre la place d'autres espèces qui étaient endémiques à ces milieux.
Des milieux fragiles, mais là, grâce à ce programme donc européen LIFE, qui signifie, je le rappelle, l'instrument financier pour l'environnement, c'est quelle somme déjà pour ce qui concerne les landes d'Armorique ?
On est sur une somme importante, hein, puisqu'on est sur un budget de plus d'1,6 million, donc financé à 60% par la Commission européenne. Donc c'est une enveloppe financière conséquente pour le territoire du parc d'Armorique.
Sur quelle temporalité ?
Alors ce programme va nous occuper sur les 5 années à venir. Donc on a commencé là au mois de janvier, c'est tout récent. Et on va travailler dessus jusqu'au mois de décembre 2025.
Donc déjà ça finance un poste, le vôtre. Et puis quoi d'autre alors ?
Alors, on va pouvoir financer tout un panel d'actions, en fait, pour restaurer ces milieux de landes et de tourbières. On a environ une vingtaine d'actions qui ont été identifiées dans le programme. Donc, c'est quand même un plan d'action ambitieux. Hein. Et parmi ces actions, on peut en citer quelques-unes, si vous voulez.
Ah oui, allons-y. Alors, que ça soit concret, ouais.
Alors, c'est vrai qu'on parlait des résineux tout à l'heure en menace pour ces milieux. Donc, il y a des gros travaux qui vont permettre de couper des boisements de résineux qui n'ont plus de valeur économique aujourd'hui, parce que ces arbres dépérissent sur pied ou en tout cas ne sont pas exploitables par la filière bois. Donc, on va profiter pour les couper et justement combler ensuite les drains pour retrouver cet aspect humide qui caractérise nos landes et nos tourbières.
Ça peut prendre combien de temps, ça, une récupération de terrain après résineux?
Alors, c'est des milieux qui réagissent de manière parfois très lente. Donc là, je vous ai dit qu'on est sur un programme de 5 ans. Ce n'est pas dit qu'on ait tout de suite en 5 ans voilà, une parcelle de landes qu'on va retrouver en très bon état de fonctionnement. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc nous, après le LIFE, on va continuer à travailler sur ces milieux pour s'assurer que ce qui a été fait ait un impact positif sur ces milieux. Mais voilà, tout ça pour dire que ça prend un petit peu de temps, même si on peut retrouver assez rapidement, dans certains cas, une végétation pionnière qui va revenir et qui va caractériser ces milieux humides.
Et ces boisements, c'est sur des terrains domaniaux ou c'est privé? Enfin, comment ça se passe?
On a les deux cas de figure. On va avoir des parcelles publiques et des parcelles privées. Donc là aussi, du coup, on aura une grosse communication, sensibilisation auprès des propriétaires privés pour leur expliquer l'intérêt du programme, l'intérêt des actions qui sont menées, et puis voir avec eux s'ils sont d'accord de participer à ces travaux, qu'on puisse intervenir sur leur parcelle.
Ils peuvent être indemnisés le cas échéant? Enfin, ça fait partie du programme?
Alors, pas directement. En fait, ils vont pouvoir, si possible, valoriser le bois par la vente, en fait, hein, pour valoriser le bois. Et en revanche, les travaux qui seront faits chez eux seront pris en charge à 100% par le programme LIFE. Donc c'est vrai que pour le propriétaire, il n'y a aucun impact financier au niveau de ces travaux de restauration.
D'autres exemples d'actions?
Oui, tout à fait. Donc on va essayer aussi d'acquérir des parcelles, parce qu'on considère que lorsqu'on maîtrise le foncier, c'est un outil de protection qui est quand même assez puissant. Hein. Donc là, c'est plutôt le département du Finistère qui va nous accompagner là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est passé peut-être rapidement dessus, mais c'est un programme LIFE qui est porté par le parc naturel. Mais le parc n'est pas tout seul là-dessus. On a un partenariat fort avec le département du Finistère et Bretagne Vivante. Donc le département va agir sur ces acquisitions foncières. En termes de travaux, on peut aussi citer justement des aménagements qui vont être faits au niveau des sentiers dont on parlait tout à l'heure, sur le Ménésome, sur les crêtes des Monts d'Arrée, pour essayer de mieux accueillir le public et mieux le canaliser pour éviter des divagations sur la végétation. On va également travailler fortement sur des, comme on l'évoquait aussi, les milieux qui ont tendance à se refermer par manque d'activité de gestion agricole. Donc là, on va les rouvrir avec des engins qui sont adaptés pour supprimer la végétation qui a envahi ces milieux, retrouver une végétation rase typique de ces landes. Et derrière, on va conventionner avec des agriculteurs qui sont intéressés par ces milieux pour les mettre en gestion, donc soit par de la fauche ou de pâturage pour leur bétail.
Donc plutôt les moutons, enfin, quel type de bétail en fait?
Alors,
pour les landes,
les moutons sont bien adaptés, mais on peut aussi trouver des vaches hein, qui sont certaines races de vaches qui sont parfaitement adaptées à ce type de milieu. Voilà, on peut les mettre quelques semaines au mois d'août septembre sur ces milieux pour aller brouter ces landes.
Je crois que c'est ce que fait le Kragou Vergam, enfin Bretagne
oui,
Vivante
tout
d'ailleurs.
Fait, tout à fait. Ouais. Du coup, on va beaucoup s'inspirer de ce qu'ils font depuis plusieurs années. Ils ont pas mal de retours d'expérience là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec eux aussi sur ces thématiques.
Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est des actions donc directes sur le terrain. Et puis, il y a tout le reste, enfin, on va dire un programme pédagogique déjà, pour qui
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a un gros volet, donc communication, sensibilisation, pour expliquer aux gens l'intérêt des travaux et de préserver ces milieux, avec un volet effectivement pédagogique qui est assez fort, qui a été bien identifié par les élus du parc. Et donc ça correspond notamment à créer des aires terrestres éducatives avec les écoles du territoire du parc.
Qu'est-ce que c'est une aire terrestre éducative?
Donc une aire terrestre éducative, l'idée en fait c'est que ce sont les enfants qui sont gestionnaires de leur espace naturel. Donc c'est les enfants qui vont nous dire nous on aimerait travailler sur cette lande. Et nous, on propose telle et telle mesure pour gérer et entretenir la lande. Et puis, on va pouvoir suivre avec eux pendant plusieurs années les travaux qu'ils ont faits. Donc, c'est vraiment les enfants qui s'approprient ce milieu et qui s'approprient les travaux de restauration.
Donc, c'est des partenariats avec des écoles, alors,
c'est
ça?
Tout à fait, c'est ça. Okay. Donc là, prochainement, on va commencer à rencontrer les écoles qui seraient intéressées par ce genre d'action.
Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme programme pédagogique?
Alors, programme pédagogique ou autre action de communication en tout cas. Donc c'est vrai qu'on a tout un panel d'actions qui va être déployé là sur les 5 années. Donc on a déjà un tout nouveau un site internet du LIFE qui est disponible depuis une semaine. Vous pouvez le consulter directement sur le site du parc Narmorique.
On le mettra sur le site de Radio Évasion.
C'est parfait. On a également une plaquette de présentation voilà, du programme live que vous pourrez télécharger aussi sur le site du parc et qui sera bientôt disponible en version papier en fait, dans les différentes mairies du parc naturel. On va également produire des petites séquences vidéo là, de quelques minutes assez courtes hein, qui seront diffusées sur les réseaux sociaux ou sur le site du parc pour montrer en fait, au grand public l'avancement du programme, les travaux qui sont faits, découvrir aussi les milieux landes et tourbières. Voilà, on va aussi organiser tout un tas de sorties sur le terrain pour expliquer aux gens ce qu'on fait en termes de travaux. Pourquoi pas organiser aussi des balades tout simplement dans ces milieux naturels pour sensibiliser aussi les gens à la préservation de ces...
Oui, ça, on a le droit a priori de faire ça.
Oui, on peut se promener, il faut aller se promener, il faut découvrir ces milieux, mais il faut juste respecter la végétation et les animaux qui y vivent.
Et puis quand on aura le droit, peut-être une fête des Landes, c'est ça ?
Oui.
D'autres événements prévus ?
Tout à fait. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est dans les tuyaux, si je puis dire. On aimerait organiser chaque année un événement sur une semaine, en fait, qui, plutôt au beau jour, c'est plus sympa, qui fasse un peu le bilan de l'année écoulée, qui présente, voilà, comme je le disais, via des sorties animées, des visites de chantier, qui présente ce qui a été fait sur le life, à la fois aux partenaires techniques, mais aussi aux habitants et aux agis du territoire. Et cette semaine se terminerait sans doute par un comité peut-être plus technique, plus scientifique pour envisager la suite du live.
Très bien. Et puis aussi des émissions de radio comme celle-ci,
bien
qu'on
sûr.
Peut réécouter sur le site de Radio Évasion. Merci Yves-Marie Le Guerne et à bientôt.
Merci.